Salut à tous et bienvenue dans la chronique des composants. Dans cet épisode, on va vous parler de Magic Leap, du futur de la photo, de son électronique et de deep learning. Tout un programme. Merci à vous de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de la chronique des composants. Vous le savez désormais, Tech Café, c'est une émission un peu plus généraliste. Et puis, nous avons cette chronique des composants qui va plonger au cœur de l'informatique, au cœur de l'électronique que vous avez peut-être entre les mains actuellement en train d'écouter un podcast, cette émission. Et pour parler de tous ces sujets fascinants, on retrouve Guillaume. Salut Guillaume.
Oui, salut, ça va bien ?
Ça va très bien, ça va très très bien. On peut le rappeler encore une fois, on s'appelle tous les deux Guillaume, ce qui doit être un cauchemar pour les gens pour savoir qui est qui par rapport aux voix quand on nous découvre la première fois. Donc toi, c'est Guillaume, l'expert de la chronique des composants. Et moi, c'est Guillaume Vendée qui anime Tech Café de manière générale. Et puis, on se retrouve tous les deux de manière privilégiée pour parler de choses du futur. Et une fois de plus, cet épisode promet d'annoncer des choses assez incroyables puisque... Alors on le dit pas, on va vous donner quelques coulisses, mais avant chaque épisode, on prépare nos émissions parce que moi je suis pas du tout au fait des éléments que suit Guillaume. Du coup, on échange et j'avoue que là, une fois de plus, on arrive dans des sujets qui sont à la fois bluffants et très flippants pour l'avenir de l'électronique. On va commencer tout de suite, on va revenir sur un sujet dont on avait un petit peu parlé, on avait entreabordé le sujet, si j'ose dire. C'est Magic Leap, Guillaume.
Oui, Magic Leap, donc, c'est une start-up, je pense que c'est la start-up la plus riche du monde, hein, un truc comme ça. Magic Leap, c'est cette start-up qui promet de faire des lunettes de réalité augmentée, en tout cas c'est comme ça qu'elle s'était présentée, qui apparemment dépasserait tout ce qui se fait et tout ce qui va se faire, même ça dépasserait très largement les projets de Microsoft. Alors Magic Leap, donc, quand je dis que c'est riche, c'est vraiment riche, hein, maintenant, c'est plus de 1 milliard de dollars d'investissement avec des investisseurs ultra prestigieux. Alibaba même d'ailleurs en dernier lieu, mais aussi bien d'autres, hein, Google en tête. Et donc Magic Leap, la particularité de Magic Leap, c'est que justement c'était une start-up milliardaire qui a jamais rien produit, sauf des espèces de démos, animaux de synthèse. Et du coup, là, apparemment, il y a une nouvelle vidéo. Alors, c'est sûr, pareil, hein, c'est une vidéo sur Internet, une vidéo YouTube, mais il y a marqué « c'est fait sans trucage ».
Bon, on va les croire alors. C'est comme les pubs de Super Glue 4.
Voilà, exactement. Donc du coup, on se dit, bon, c'est vrai que si c'est vraiment comme ça, c'est quand même assez bluffant. Alors, les investisseurs étant ce qu'ils sont, s'ils mettent autant de fric dans une entreprise, ouais, c'est qu'ils savent probablement des choses que nous, on ne sait pas.
Ils ont beaucoup de fric, mais quand même.
Voilà, donc c'est que probablement, eux aussi, ils ont vraiment été sur le cul et qu'il y a sans doute quelque chose derrière, quoi. Alors, Magic Leap, qu'est-ce que c'est ? On a encore de nouvelles petites infos quand même, hein, parce que ce ne seront pas seulement des lunettes de réalité augmentée. Ça va être un système complet, un ordinateur complet, en fait, hein, un système comparable à un téléphone mobile. D'ailleurs, apparemment, Magic Leap fera tout ce que fait votre téléphone mobile. Il vous projettera des images, des objets directement sur la rétine, et ces objets seront quasiment ou pratiquement indiscernables d'objets réels. Il aura son propre système d'exploitation spécifique, son propre écosystème d'applications, et il reposera sur un cloud aussi personnalisé qui permettra de faire un certain nombre de reconnaissances. D'ailleurs, le système est aussi équipé de caméras infrarouges et qui reconnaîtra vos mains, qui permettra d'interagir avec les images virtuelles. Alors, tout ça promet énormément.
C'est clair, t'as mis la barre haut, là.
On peut se dire, est-ce que ça promet pas trop ? Bon, voilà, moi j'ai envie d'y croire. Maintenant, on peut aussi se poser la question à 100 millions, c'est qu'est-ce que c'est, en fait ? C'est-à-dire, quelle technologie utilise Magic Leap pour que ce soit aussi fabuleux, pour que ça soit aussi incroyable, aussi naturel, puisqu'ils clament et qu'ils veulent entendre que le cerveau ne fera pas la différence entre un objet Magic Leap et un objet réel. Ça, c'est la promesse, mais qu'est-ce que ça pourrait être ? Alors, on a vu passer pas mal de... le mot qui revient souvent, c'est light field, c'est-à-dire ils projettent dans votre rétine le light field, le champ de lumière. Alors, qu'est-ce que c'est que ce light field ? Et ça nous permet effectivement d'en dire un petit peu plus sur la photo pleine optique. Alors, je ne sais pas si tu avais suivi un petit peu, parce que la photo pleine optique, c'est une histoire qui n'est pas très très jeune, mais qui est sortie des labos qu'assez récemment avec cette petite caméra Litro. Je ne sais pas si tu te souviens de ça.
Oui, oui. Il me semble qu'on avait relayé ce sujet d'ailleurs dans Tech Café via peut-être un coup de cœur, mais on n'a pas approfondi effectivement, ne serait-ce que par son mode de fonctionnement.
Ouais, Litro, c'est deux types de caméras, en fait, hein, qui sont complètement nuls en tant que caméra, disons, en tant qu'appareil photo.
Vaut mieux acheter un compact Nikon tout
Complètement. Mais elles avaient un truc magique. elles étaient capables de faire la mise au point après avoir pris la photo. Bon, alors dit comme ça, ça paraît un peu gadget, d'ailleurs ça l'est, mais quand même magique. C'est comment c'est possible de faire la mise au point après avoir pris une photo.
En gros, vos photos ne seront plus jamais floues, quoi.
Elles ne seront plus jamais
au bon endroit.
Elles seront plus jamais floues, effectivement, mais vous pourrez surtout changer la mise au point, non seulement la mise au point, mais aussi la profondeur de champ, et comme vous voulez. Alors le truc, c'est que c'était fait sur des photos de petite taille, etc. Bon, les contraintes techniques sont ce qu'elles sont. Hein. Alors, comment c'est possible, en fait, de faire une mise au point sur une photo après l'avoir prise? Ben, c'est tout simplement parce que l'appareil ne prend pas une photo, tout simplement. En fait, un litro ne prend pas une photo, un litro capture ce que les Américains appellent le light field, donc justement, est-ce qu'en français on appelle le champ plein optique. Et qu'est-ce que c'est que la fonction plein optique? C'est toutes les informations optiques, c'est-à-dire toutes les informations de luminosité, de lumière, que vous pouvez avoir dans l'espace. Donc, pensez à la fonction plein optique comme une fonction abstraite, qui vous permettrait de connaître à tout point de l'espace l'intensité de tous les rayons lumineux qui passent par ce point de l'espace, de toutes les directions possibles, du haut vers le haut, vers le bas, vers la droite, de toutes les directions possibles. Donc si vous aviez cette fonction-là, qui est une fonction abstraite, vous seriez capable de reconstruire une scène de n'importe quel point de vue. Et vous pourriez la reconstruire comme vous voulez, avec la focale que vous voulez, avec l'exposition que vous voulez, avec aussi la mise au point que vous pouvez faire où vous voulez, etc. Donc en fait, ce que vous avez, c'est un ensemble d'informations optiques lumineuses sur la scène, et pas une image. Et ensuite, l'image, elle est synthétisée, comme une image de synthèse en fait, mais cette image de synthèse est basée sur des informations optiques, et pas sur des informations géométriques, comme sur des images de synthèse traditionnelles, qu'on connaît bien. Hein. Donc, comment ça marche en pratique? Alors en pratique, évidemment, la fonction en pleine optique, elle est impossible à calculer, hein. C'est une fonction qu'on n'utilise pas dans sa globalité, mais dont on peut construire des morceaux, en fait. Et donc, que fait un litro? Le litro, en fait, capture un tronçon, comme ça, d'informations pleine optique, en face de lui. Voilà. Donc au lieu d'avoir juste une image plate, vous avez un tronçon d'informations lumineuses complet de ce que vous prenez dans la direction où vous prenez la photo. Et donc, avec ces informations-là, vous pouvez resynthétiser donc non seulement pas une photo, mais une infinité de photos. Une infinité de photos qui peut être, donc ce sont des images qui sont toujours des photographies, donc elles sont toujours photographiques, il n'y a pas de reconstruction approximative ou quoi que ce soit, ce sont vraiment des photographies ou photoréalistes, mais vous pouvez les reconstruire en changeant légèrement le point de vue, par exemple en vous tournant, en vous décalant un petit peu, vous pouvez faire le point où vous voulez, vous pouvez changer la focale aussi, c'est-à-dire vous pouvez changer la perspective, et vous pouvez même avoir des images avec des perspectives différentes selon la zone. Par exemple, c'est tout à fait possible. Vous pouvez reconstruire une photo, des informations stéréoscopiques aussi. Et vous avez même des informations de profondeur qui sont beaucoup plus intéressantes que des informations de profondeur que vous auriez avec juste deux images, parce que vous avez la parallaxe non seulement en horizontal, mais en vertical, mais aussi dans toutes les directions. Donc si vous bougez votre tête, comme sur un hologramme, et c'est ça le point en fait, hein, vous pourriez avoir toutes les informations de parallaxe exactement comme si vous regardiez la scène réelle.
Vas-y. On a parlé du L16 dans Tech Café. Peut-être que ce serait intéressant de faire vraiment le point sur la différence entre les deux, au-delà des technologies qui sont probablement pas les mêmes, mais sur la philosophie. On est d'accord, le L16, il va permettre surtout de recadrer, parce qu'il va utiliser plus ou moins certaines lentilles la photo. Enfin non, il va d'ailleurs permettre de recadrer, pas parce qu'il utilise plus ou moins certaines lentilles, il va permettre de recadrer, donc de faire un cadrage a posteriori, donc ça ok, c'est bien, mais il va surtout permettre de choisir la profondeur de champ a posteriori. Donc là, c'est là où on se rapproche de la photo pleine optique et du litro. Mais la technologie dont tu parles de pleine optique, elle va au-delà, elle va jusqu'à pouvoir se décaler un peu sur le côté a posteriori. On est d'accord, c'est la principale différence.
Oui, en fait, le L16 utilise 16 caméras. Donc en fait, lui, il est capable de reconstruire un ensemble de scènes, un ensemble de variations sur ce qu'il voit avec 16 points de vue. Pour faire du plein optique, vraiment, en fait, souvent, on utilise des matrices, soit des matrices de lentilles qui permettent de fragmenter la scène en autant de micro-scènes vues de points de vue différents, soit on utilise carrément énormément plus de capteurs, soit on peut aussi utiliser des appareils mobiles. Par exemple, si on veut faire capturer le champ planétique autour d'un objet, on peut tourner autour à très haute vitesse et prendre un très très grand nombre de photos et ensuite extrapoler le champ comme ça. On peut faire, y a pas mal de techniques en fait, hein, qui permettent d'avoir des représentations plus ou moins précises, de plus ou moins grands tronçons en fait, de ce fameux champ planétique qui permettent en fait de ensuite de reconstruire une infinité de photos dans la limite des informations qui ont été capturées. Alors là, pour le coup, il faut quand même préciser, quand je dis vous pouvez tourner autour de l'image et tout, on pourra se demander, mais quelle est la différence avec les petits gifs où on voit des petites rotations comme ça, parce qu'il y en a des petits gifs en 3D en relief, où on voit des petites rotations comme ça, on se dit, mais je veux dire, quel est l'intérêt? Ben, l'intérêt, c'est qu'en fait, quand vous avez un gif comme ça, vous avez une petite rotation qui fait, ou vous avez un petit effet de relief comme ça, toutes les images sont encodées dans le gif. C'est comme si c'était une vidéo, en fait. Hein. Bon, alors que quand vous faites une photo planoptique, en fait, vous encodez le champ. Donc ce champ est encodé dans un fichier RAW, par exemple. Ce fichier RAW, il est un peu plus lourd qu'une photo normale, mais pas énormément. Et à partir de ce fichier-là, vous resynthétisez une infinité d'images. C'est ça la différence, c'est-à-dire c'est exactement, il faut le voir comme une image de synthèse. C'est-à-dire qu'une image de synthèse, vous avez une scène qui est décrite par un ensemble de géométrie, une caméra, des lumières virtuelles, et après ben, vous avez un algorithme de retracing par exemple qui calcule en fonction de la position des lumières et de votre position à vous, l'image que vous allez avoir. Mais vous pouvez avoir en fait une infinité d'images, il suffit de déplacer votre point de vue ou de déplacer les lumières et vous avez encore une autre image. Donc vous avez une infinité d'images possibles avec un set de données fini, quand vous faites de la synthèse d'image. Et c'est la même chose, en fait, quand vous faites de la photo planoptique, c'est-à-dire que vous faites de l'image de synthèse. Et cette image de synthèse, au lieu d'être basée sur de la géométrie, elle est basée sur le champ planoptique qui a été samplé, qui a été échantillonné, qui a été reconstruit par un échantillonnage, en fait. Et c'est ce qu'on appelle le champ de l'image-based rendering, c'est-à-dire le rendu d'image basé sur des images. C'est-à-dire, on rend des images basées sur d'autres images, plutôt que de rendre des images basées sur de la géométrie, comme on le fait en image de synthèse classique. Mais en fait, il s'agit de la synthèse d'image. C'est vraiment de la synthèse d'image.
Moi, je trouve ça complètement bluffant. Alors, moi, j'ai toujours été passionné par la photo. J'avoue qu'il y a quand même des mécaniques en photographie qui sont pas évidentes au départ à comprendre. Mais quand on voit à quel niveau on va en capture d'image, en capture de lumière et de ce qu'on peut en faire derrière, alors, c'est quand même hallucinant.
Je vais quand même essayer de finir sur le Magic Leap parce que finalement, oui. On voit pas très bien le rapport peut-être entre Magic Leap et ce que je viens de dire. C'est tout à fait normal parce que pour l'instant, il n'a pas trop. Bon, alors, le Magic Leap utiliserait donc ce fameux champ. Donc, ce champ, qu'est-ce que c'est? Donc, encore une fois, c'est l'information, non seulement l'information d'intensité lumineuse en chaque point, mais c'est aussi la direction des rayons qui arrivent. Bon. En fait, j'ai dit qu'on pouvait reconstruire une image en 3D si on avait le champ, parce que tout simplement, on peut avoir plusieurs points de vue, et on peut en déduire des informations de profondeur sur l'image. Bon. Ouais. Alors maintenant, il y a aussi une autre manière, c'est de faire le truc à l'envers. C'est-à-dire que, étant donné le champ, on peut fabriquer une matrice d'image, une matrice de micro-images, représente l'objet ou la scène selon des points de vue très légèrement différents, et on peut mettre dessus une matrice de micro-lentilles qui permettent de focaliser ça et de vous faire percevoir ça comme une image en 3D. Et c'est un principe qui est très proche de celui de l'holographie, en fait. Mais c'est une forme d'holographie synthétisée, c'est-à-dire qu'on fait, c'est pas un hologramme fait avec des lasers, cette fois c'est un hologramme qu'on fabrique à la volée et qu'on envoie directement sur la rétine. Donc il n'est pas impossible que Magic Leap fasse une sorte en fait d'holographie synthétique, hein, on va dire, et que ça se base, c'est pour ça qu'ils utilisent le champ. Donc le champ, le light field comme ils disent, c'est justement effectivement peut-être pour faire cette espèce de champ d'hologramme virtuel qui vous projette sur la rétine. Quel serait donc encore une fois l'intérêt de faire un hologramme virtuel plutôt que d'utiliser des images normales, quoi, je veux dire,
le fun pour les autres?
En fait, encore une fois, c'est tout simplement parce que il y a plein de défauts à la stéréoscopie standard qui est utilisé par exemple dans l'Oculus, hein, où vous projetez une image par œil, une image différente pour chaque œil. On comprend très bien que Quand vous faites ça, en fait, la mise au point, elle est faite pour vous, et elle est fixe, par exemple. Quand vous bougez, vous n'avez pas toutes les parallaxes, puisque vous avez, par exemple, si vous inclinez la tête, vous allez vous retrouver dans une position qui est une position différente de la position de prise de vue, par exemple. Donc, enfin, les yeux, en fait, si la prise de vue a été faite à l'horizontale et que vos yeux passent à la verticale, vous allez avoir une aberration sur une image stéréoscopique. Cette opération, vous n'allez pas la voir sur le Magic Leap, et en fait, vous aurez un relief qui sera identique, en tout cas virtuellement identique, à ce que vous avez lorsque vous contemplez une image réelle. C'est aussi ce que vous avez en holographie, c'est-à-dire que par principe, l'holographie est un relief parfait. Parce que justement, il enregistre la lumière venant de toutes les directions possibles, et donc il restitue le champ lumineux, il le restitue tel quel, quoi. Donc ce serait apparemment voilà, ce serait à peu près, d'après moi, hein, il est possible que ce soit la piste qui ait pris Magic Leap.
Je suis en train de m'imaginer avec un Oculus et pencher la tête sur le côté. Déjà que ça me donne un peu la nausée à la base, j'ose pas trop imaginer le grand 8 pencher la tête sur le côté, quoi.
Mais les light fields sont déjà utilisés en réalité virtuelle pour plusieurs raisons, en fait, hein, parce que d'une part, ça donne un relief. Le principal avantage, c'est, enfin, il y a plusieurs avantages, en fait, hein, mais donc un des principaux avantages, c'est justement cette histoire de parallaxe parfaite, c'est-à-dire qu'on a les impressions de parallaxe, quelle que soit l'orientation de la tête, si vous vous décalez, tu vois, par translation, par rotation, et dans tous les sens. Il n'y a pas de problème, alors qu'il y a des problèmes qui sont assez importants avec la stéréoscopie. Puis il y a toujours ce problème de mise au point, hein, où on peut, comment justement on peut faire le point après coup, quand on fait du planoptique, ben justement, il est possible de faire le point là où vous regardez, et pas juste une mise au point fixe, comme c'est le cas classiquement, quoi. Donc il y a des trucs, alors je l'ai mis dans le lien, voilà, il y a pas mal d'exemples, d'entreprises qui commencent à utiliser soit des champs planoptiques, des photos planoptiques générées par ordinateur, c'est-à-dire des images par image de synthèse, soit reconstruites à partir de prises de vue qui sont utilisées pour améliorer l'expérience VR et la rendre plus immersive.
Bah merci beaucoup. S'il y a un lien à aller voir dans les notes de l'émission, là, il y a un lien qui est c'est une vidéo YouTube qui montre vraiment les différentes utilisations qu'on pourrait imaginer pouvoir faire d'une prise de vue de ce type-là. Et j'avoue que ça permet vraiment de se rendre compte et c'est assez bluffant quand même. Alors effectivement, est-ce que c'est fait sans trucage? On verra bien.
Tu parles de celle de l'université de Stanford?
Ouais.
Ouais, maintenant ça se fait son trucage, évidemment. D'ailleurs, alors à une époque, Stanford distribuait les logiciels, en fait, pour reconstruire les images à partir des champs qu'ils avaient capturés eux-mêmes. Il y a sur la page, en fait, de Stanford, et d'ailleurs c'est pas la seule, hein, mais bon, ce truc-là était particulièrement parlant. Vous pouvez voir effectivement, il y a plein de techniques, en fait, pour capturer des parties, hein, donc du light field, et pour l'encoder efficacement, et puis ensuite pour le retranscrire en image. C'est un truc qui date des années 90, en fait, dans les labos, les chercheurs planchent là-dessus depuis les années 90, et c'est que maintenant, en fait, ça commence à sortir des labos, parce que ça demande quand même une grosse capacité. Déjà, il faut des capacités de prise de vue particulières, et puis après, il faut des capacités effectivement pour encoder et traiter le flux. Et en fait, tout ce que vous pouvez faire dans la vidéo de Stanford, c'est bien sûr réaliser son trucage, et il faut se rendre compte que ce n'est pas fait avec une vidéo, quoi. C'est pas une vidéo où on a pris plusieurs points de vue, c'est un seul point de vue, mais c'est juste une photo qui est, enfin, c'est juste un ensemble d'informations qui est différent de la photo et avec lequel on reconstruit comme ça une infinité d'images.
C'est complètement bluffant. Allez regarder, vous nous faites vos réactions évidemment dans les commentaires de l'émission. On va rester dans l'univers de l'image, même si on va s'éloigner un petit peu de la prise de vue mais on va garder quand même la notion de calcul de l'image. On va se rapprocher du domaine même des jeux vidéo, domaine que tu adores, et on va parler un petit peu d'Halo 5 et de la façon dont ça fonctionne d'un point de vue résolution. C'est vrai que moi je me rappelle, à l'époque, je voulais absolument jouer au premier Half-Life à l'époque, et l'ordinateur n'était pas très très puissant, et j'étais obligé de baisser énormément la résolution. Je devais jouer en 640 480, ce qui était assez cracra. Dis-nous ce qui se passe un petit peu chez Halo 5.
Eh bien, Halo 5, lui, il tourne à 60 images par seconde. Ils ont voulu qu'il tourne à 60 images par seconde, il le fait, mais comme la Xbox One, de même que la PS4, hein, c'est la même chose, ben, ce n'est pas des machines qui sont excessivement puissantes, mais il y a des fois où ça pose problème. Parce qu'il y a des fois où les scènes sont relativement simples, et donc, bon, ben, c'est pas trop grave, et puis il y a des fois où les scènes sont un peu plus chargées, et puis la console, elle n'y arrive pas. Alors, comment faire? Eh bien, il y a une solution qui est pas conne du tout, finalement, c'est de
Baisser
baisser
la
la
résolution
résolution.
comme moi quand je jouais à
Exactement.
Half-Life. Voilà.
Voilà. Mais elle le fait, là où c'est quand même beaucoup plus fin, c'est que c'est fait de manière dynamique. Et c'est fait de manière intelligente aussi. C'est-à-dire que, grosso modo, quand est-ce que vous avez besoin de résolution? Vous avez besoin de résolution quand vous regardez, que vous êtes attentif, et quand vous regardez quelque chose. Donc, quand vous bougez pas beaucoup, quand une scène est relativement fixe ou bouge lentement, vous avez la possibilité de regarder les détails. Et justement, quand une scène bouge lentement, bah, si la console rend deux fois ou trois fois moins d'images, c'est pas bien grave. Vous ne le verrez pas trop. Donc, du coup, la console a beaucoup plus de temps pour rendre ses images, et donc elle en profite pour rendre en pleine résolution. Mais quand les choses bougent vite, et que vous êtes concentré sur l'action, et bien quand les choses bougent vite, en général, vous ne voyez pas trop les détails, vous ne faites pas trop attention, et là, c'est le moment de baisser la résolution. Donc, c'est à ce moment-là que la console, automatiquement, rend à une résolution inférieure. Alors, elle rend une résolution inférieure, mais notablement quand même, puisque je crois qu'elle passe en 810, ouais, en 1052 par 810, au lieu de 1536 par 1080. Donc c'est un rescaling assez violent,
C'est pas
mais
1900,
comme vous...
1940, non, je sais
Ah,
plus
c'est
combien
pas,
c'est.
mais c'est, oui, c'est jamais du 1080p réel, hein, c'est du
C'est ça.
1080p, c'est 1920 par 1080,
Voilà,
donc.
c'est ça, ouais.
Voilà. Mais bon, passons. Moi, je dirais,
Querelle de chiffres.
je vais pas troller, non, mais je vais pas troller sur la Xbox,
C'est pas la peine.
sur la PS4, parce que de toute façon, ce serait un peu le même problème, je pense. Mais grosso modo, c'est quand même assez intelligent de faire ce genre de truc, parce que en pratique, c'est très peu perceptible à l'œil nu, justement à cause de ce que j'ai expliqué, hein, quand vous avez quelque chose qui bouge beaucoup, bon, ben, vous faites pas trop attention aux détails, et ça permet de conserver une image extrêmement fluide. Donc c'est vraiment pas idiot, et je suppose que ça sera réutilisé pas mal, à mon avis, enfin, avec cette génération de console, à mon avis, ça sera réutilisé pas mal.
Je me demande si c'est pas comme ça que ça fonctionne, tu sais, sur les DivX d'antan que je téléchargeais, moi, il me semble, mais je me trompe peut-être, qu'il y avait des passages où il y avait plus de mouvement, où la compression était plus forte. Je sais pas si ça
Non,
n'a
en
rien
fait,
à
c'est
voir.
l'inverse.
Ah,
C'est
c'est
l'inverse.
l'inverse. Merde.
Non, mais en fait, bah, et tu sais comment ça marche, la
Et c'est les
compression.
grosses zones plates de couleur uniforme, c'était plus compressé, c'est ça?
Non, non, non. En fait, sur les vieux DivX, le flux, et souvent c'était un flux à bande passante constante. Donc, tu avais, pour chaque frame, tu avais une quantité de données précise. Et cette quantité de données, elle était répartie sur toutes les informations qu'il y avait à coder, quoi. Alors là, qu'est-ce qui se passe en général quand tu as une. On va faire simple. Hein. Quand tu as des scènes qui ne bougent pas beaucoup, la différence entre les deux images, elle n'est pas énorme. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'informations à coder. Une fois que tu as codé la première keyframe, bon, ben,
D'accord.
il n'y a pas énormément d'informations à coder. Donc, le pool qui t'est alloué, si tu veux, il suffit pour avoir une bonne résolution, une bonne définition sur les images qui suivent, sur les interpolés, quoi. Bon. Le problème, c'est que quand ça bouge vite, quand il y a des changements brusques dans des images ou dans des zones de l'image,
Quand il y a Mulder qui court
et
dans un
ben, du
tunnel avec
coup,
des effets de lumière.
forcément, quand il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup plus de choses à coder parce qu'il y a beaucoup plus d'informations à envoyer. Et comme le pool, lui, il reste le même, et ben, et les informations sont d'autant plus dégradées. C'est pour ça que dans les scènes qui sont les plus rapides, tu as les artefacts les plus importants, alors qu'en général, tu ne les vois pas quand les scènes
Mais
sont.
donc c'est pareil, c'est quand il y a beaucoup de mouvement que l'image est plus compressée.
Oui, non, mais elle
Comme
est
dans Halo
compressée
5.
par la force des choses, en
Ouais,
fait.
bien sûr, oui, bien
Parce
sûr.
que la contrainte d'avoir, je sais pas moi, 800 kilobits seconde, elle est large quand tu as des images qui sont à peu près identiques, mais elle suffit pas quand tu as des images qui bougent beaucoup. Donc du coup, bah, tu as toujours 800 kilos seconde, et puis bah, écoute, tu as des détails qui passent à l'as, quoi, tout simplement. Donc c'est adaptatif, mais c'est adaptatif dans le mauvais sens. C'est-à-dire que, en fait, il faudra faire l'inverse. C'est ce que font d'ailleurs les algorithmes qui sont à bitrate, à bande passante variable. Les algorithmes modernes sont tous à bande passante variable de toute façon, mais quand tu as de bande passante variable, c'est tu as un pool de bits, pareil, tu as un pool d'informations, et ce pool d'informations, au lieu qu'il soit constant par frame, il est constant pour un intervalle de temps plus large. Et après, selon ce qui se passe à l'écran, l'algorithme décide d'allouer plus ou moins de bits à diverses séquences pour que justement il y ait plus de bits qui soient alloués quand il y a beaucoup d'actions et moins de bits qui soient alloués quand les images sont fixes presque.
Ok.
C'est pour ça qu'on fait de l'accodage en deux passes, hein, ni plus ni moins. Mmh.
Ben merci, en tout cas c'est des beaux sujets sur les images. On va mettre de côté le calcul des images, on va repartir sur le cœur de métier dans lequel tu excelles si bien. On va parler des prestations de Marvel, rien à voir avec les comics messieurs dames bien entendu, qui propose une nouvelle architecture, un nouveau même type d'architecture.
Ouais, oui, non. Enfin, bah, si tu veux, je suis obligé de parler de composants, hein, parce que sinon.
Ça s'appelle plus la chronique des composants.
Ça serait pas une CDC, hein, sinon. CDC, c'est pas Center for Disease Control, je vous précise. Ça n'a rien à voir. Donc pourquoi je. Oui, bon, enfin, je sais plus. Donc je parlais du mochi. Voilà, je vais parler du mochi.
Mochi, allez.
Alors le mochi, c'est. Mochi, c'est cette pâte de riz bizarre que vous trouvez beaucoup en cuisine japonaise. C'est pas dégueu, mais c'est bizarre. Enfin, comme beaucoup de trucs que font les Japonais. Non, ça n'a rien à voir. Mochi, ça veut dire Modular Chips, en fait. Et c'est une nouveauté introduite par Marvel Technology. Alors, Marvel, c'est un acteur assez connu dans le domaine des processeurs pour portables, qui est spécialisé dans les trucs, dans les solutions à faible coût. D'entrée de gamme, on va dire, on le trouve plus volontiers. Même si, de plus en plus, un petit peu tous les fondeurs, hein, comme ça, ils étendent un peu leur gamme. Mais c'est vrai qu'eux, ils ont une spécialité à l'entrée de gamme. Et du coup, pour conforter un petit peu ça, ils ont introduit deux petits trucs là, dont je vais parler. Alors le premier, c'est le mochi. Alors c'est quoi mochi? Donc Modular Chip, c'est la possibilité de jouer au Lego avec son petit système sur puce, son petit processeur. Donc, bon, là, j'ai déjà dit 45 fois, mais évidemment, dans un téléphone mobile ou une tablette, ou même un ordinateur portable, maintenant, vous avez sur le processeur central, en fait, vous n'avez pas que le processeur, vous avez donc tout le système, plein de trucs qui était à une époque sur la carte mère, voire même sur des cartes d'extension. Maintenant, c'est gravé sur un même die, dans un petit boîtier. Et vous avez donc le GPU, le CPU, le modem, les contrôleurs USB, vous avez les entrées-sorties, parfois même vous avez les puces Wi-Fi, Bluetooth, etc. Tout ça sur la même puce. Bon. Donc en fait, c'est déjà un peu modulaire, quoi. Hein. Donc Marvel, lui, il annonce de modulariser ce truc-là. Donc vous pouvez acheter des modules. Donc chaque module correspond à une unité fonctionnelle dont je viens de parler. Mais la différence, c'est que vous pouvez choisir le process avec lequel vous allez fabriquer ce composant indépendamment les uns des autres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous gravez une puce, en général, vous devez choisir un process. Au plus process est miniaturisé, au plus c'est fin, au moins ça consomme, au plus ça va vite, au plus c'est super, mais évidemment au plus c'est cher. Et ça va pas s'arranger. Le problème, c'est que ça devient de plus en plus cher et que graver des grosses puces, et fortement, si vous avez 40 000 unités fonctionnelles sur un processeur, bah, ça fait des grosses puces, ça fait des puces assez chères à graver, quoi. Donc le truc, c'est bon, ben ok, mais est-ce que c'est vraiment la peine de graver en super fin, super chiadé un modem ou un contrôleur USB? Bon, honnêtement,
j'ai envie de dire non.
S'en fout un peu. Bon. Du coup, l'idée, c'est vous allez graver votre processeur, le CPU, c'est-à-dire vraiment le processeur central, en bien, vous allez graver votre GPU en bien, et puis après, votre contrôleur USB, vous allez graver en poubelle, quoi, plus ou moins, vous allez graver avec un processus un petit peu plus, beaucoup moins cher, etc. Et après, vous allez interconnecter tout ça, et ça vous fait un système surplus qui est globalement, fonctionnellement pareil, mais qui coûte moins cher.
Mais enfin, pour prolonger ton exemple, si j'ai bien compris, par exemple, si je construis quelque chose pour un routeur Wi-Fi, on peut très bien imaginer qu'au contraire, le GPU, on fait un peu du caca, et que par contre, tout l'aspect modem, on fait quelque chose de super quali.
Oui, alors pour un routeur Wi-Fi, on fait que du caca, en fait. Hein. C'est pas la peine d'aller très très loin. C'est comme quand tu fais un NAS, tu fais que du caca, toi, t'as rien à foutre. Hein.
Bah non, faut décoder de l'image et tout, non?
Ouais, non, pour un NAS.
Enfin, pour un NAS, pas pour un routeur Wi-Fi.
Bah écoute, pour un NAS, honnêtement, c'est des processeurs assez faibles, quoi. T'as pas besoin de
D'accord.
beaucoup de puissance. Ouais, non,
d'accord.
Non. Non, mais bon, mais c'est pas idiot. C'est vrai qu'on peut se concentrer effectivement sur ce qui est le plus important fonctionnellement.
Mais, retenez-le, votre routeur, c'est que du caca, de toute façon.
Non, mais c'est sûr que bon, c'est pas un processeur de fou, quoi.
Non, je comprends.
C'est sûr. C'est un truc spécialisé, parfois, c'est même des ASIC, enfin, même plus maintenant. Enfin, bref. Donc, grosso modo, c'est vrai qu'on va souvent avoir recours à ce genre de truc. Mm-hmm. Quand on aimerait bien faire des trucs sophistiqués, mais qu'on n'a pas les moyens. Et donc on essaie de un petit peu d'économiser comme ça. Bon, mais c'est pas du tout idiot, et surtout ça demande quand même un certain raffinement, parce que mine de rien, il faut interconnecter des morceaux qui, bon, certes, sont compatibles entre eux, mais qui ne sont pas forcément fabriqués pareil et par les mêmes gens. Et du coup, c'est pas complètement évident, donc c'est pas complètement. Enfin, je veux dire, ça a une pertinence, quoi, je trouve.
Ok. Et puis pendant qu'on parle de Marvel, une autre petite merveille de leur part, le FLC.
Ben ouais, hein, toujours quand t'as pas de pognon. Donc.
Marvel, c'est vraiment les producteurs de socs des pauvres, quoi.
Ben écoute,
Mais il en faut, il en faut, il en faut, il en faut.
non mais c'est
De
voilà,
l'économie.
y a pas, c'est normal. Et puis en plus, c'est vrai qu'eux, ils tablent sur le fait que ça va devenir de plus en plus cher de graver des processeurs. C'est de plus en plus cher parce que au plus tu miniaturises, au plus les usines deviennent compliquées, au plus les processus demandent d'étapes avec des machines de fou furieux. Enfin bon, ça devient de plus en plus compliqué et de plus en plus cher. Et donc en fait, le prix par transistor ne fait que monter, ne fait qu'augmenter. Et donc ils tablent là-dessus. Ils se disent, bah, si c'est comme ça, dans 2 ans, bah, écoute, si on peut mixer un petit peu les trucs, ce sera pas mal. Et donc c'est pas du tout une stratégiquement, c'est pas con. Attention, j'ai l'air de troller, mais pas du tout en
Non,
fait.
non, mais on comprend que c'est aussi des réponses à certains types de production d'appareils aussi, quoi.
Oui, non, tout à fait. Et donc un autre truc, c'est, bah, alors j'ai envie de te dire, si ça fait longtemps que tu as un PC, maintenant c'est vrai qu'avec quand tu as 4, 8 Go de RAM dans ton PC, pas trop, tu te rends pas trop compte. Mais à l'époque où on avait, je sais pas moi, 2 Go de RAM, il fallait lancer Windows 95 ou même Windows avant, je sais pas. On n'avait pas forcément assez de mémoire pour tout. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas assez de mémoire et qu'on veut lancer un gros programme?
Le disque
Eh
dur, il
ben,
gratte.
et voilà, ça gratte. Et ça swappe sur disque. Donc c'est un processus, là, le swap sur disque, qui est vieux comme le monde, mais qui va être remis au goût du jour par Marvel, apparemment dans l'entrée de gamme, parce qu'ils se disent le truc suivant. Bon, la RAM, c'est cher. Au gigaoctet, la RAM, c'est cher. Le SSD, bon, c'est cher comparé à un disque dur, mais au gigaoctet comparé à de la RAM, c'est beaucoup moins cher. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Et si on faisait un truc hyper intelligent, comme on vire la RAM, ou presque, c'est-à-dire on garde un petit pool, mais 10 fois moins, qu'on utilise pour les trucs qu'on utilise vraiment, quoi, qui sont utilisés par le processeur tout le temps, le plus souvent. En fait, c'est un cache, tout simplement. Et tout ce qu'il y a normalement dans la RAM, on le bascule sur un SSD, qui fait la taille de la RAM qu'on avait au départ. Eh bien, on est gagnant, puisqu'on garde le dixième de RAM et on troque de la DRAM pour du SSD. Du coup, ben, on a encore réduit les coûts. Et finalement, l'impact, c'est quoi? Ben, l'impact, c'est que vous avez un système qui est basé sur un gros cache, quoi, en fait. Vous avez un SSD avec un énorme cache, et c'est tout. Et ça, ce truc-là s'appelle le FLC, d'après Marvel, le Final Level Cache. Et ce serait une possibilité, effectivement, pour réduire le coût global du téléphone, puisque bah, le prix de la RAM, ça fait encore partie c'est un poste de dépense important quand on conçoit un appareil, quoi.
On est d'accord, les performances sont quand même de toute façon moins bonnes que si on met beaucoup de RAM.
Absolument,
On est d'accord.
absolument.
Ok, on va continuer à aller dans les sujets électroniques et notamment ceux qui font pour le coup vraiment flipper. On va carrément aller du côté d'IBM qui eux sont un peu en mode savant fou. Ça fait un petit peu écho à Halloween qui était il y a quelques jours maintenant que vous écoutez cet épisode qui planche carrément sur du sang électronique.
Absolument, c'est du sang électronique. J'aime beaucoup. Alors bon, pour le moment, c'est encore au labo. Hein. D'ailleurs, les photos qui accompagnent l'article ne laissent aucun doute quant à l'état de la recherche là-dessus. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce sang électronique? Et ben, alors, à quoi sert le sang chez nous, autres êtres humains?
Bah, plein de choses d'ailleurs.
Il sert à plein de trucs. En particulier, il sert à apporter l'énergie. Il sert aussi à récupérer les déchets, hein, évidemment, et à apporter l'oxygène et tout ça, mais bon, voilà, on n'est pas là pour parler bio, donc grosso modo, il apporte de l'énergie. Alors, ce sang électronique apporterait-il de l'énergie au processeur? Eh bien oui, monsieur, absolument, tout à fait. Alors, pourquoi me direz-vous? Mais parce que,
Pourquoi?
franchement, pourquoi? Parce que apporter de l'énergie au processeur, on le fait depuis des
Il
décennies,
suffit
on
de mettre
utilise
une
des...
bonne alim.
Voilà, on met des fifilles et c'est bien, quoi, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais en fait, c'est que la problématique est la suivante. On a des problèmes, enfin, on fait des processeurs qui sont gros, donc qui sont assez chers. Pour que ce soit plus puissant, on voudrait faire des processeurs plus gros, mais ce serait beaucoup plus cher. Donc on se dit, bon, ben, ce serait peut-être bien de les empiler, de passer dans la troisième dimension. Alors, ça se fait déjà un petit peu, hein. On a le package, un package où on peut stacker par exemple CPU, GPU, ça se fait. Là, j'avais parlé du HBM il n'y a pas très très longtemps dans un autre CDC, je crois. Bon, ben ça, c'est pour la mémoire, et donc on fait plusieurs couches de mémoire et on les connecte par des petits canaux comme ça qui sont gravés en verticaux. Mais bon, on ne stack pas beaucoup, c'est-à-dire on ne fait pas 40 couches, hein. Pourquoi on ne fait pas 40 couches? Parce que ça pose des problèmes extrêmement complexes, d'une part d'interconnexion et d'autre part de dissipation thermique. Parce que ben, justement, si vous avez deux fois la densité de. Enfin, je pense que c'est assez évident, mais bon. C'est évident que si vous avez deux puces l'une sur l'autre, c'est très emmerdant de refroidir la première.
Effectivement.
Donc, du coup, mais comment on peut faire? Alors, en plus, pour alimenter une puce. L'alimentation d'une puce, elle passe par ses pattes. Or, quand vous avez une puce l'une sur l'autre, les papattes de la
Elle se
deuxième,
marche sur les pattes.
elle se marche dessus, exactement. Et du coup, la deuxième, elle a des papattes où? Elle a des papattes qui traversent la première et qui vont ajouter des papattes, en fait. Et la deuxième, elle a des papattes pour les deux, quoi. Donc, c'est quand même un petit peu emmerdant, tout ça. Et on peut se dire, mais alors comment faire pour résoudre le problème? L'idée d'IBM, c'est d'utiliser du liquide. D'une part pour refroidir, donc faire une forme de water cooling, tout simplement, c'est-à-dire faire passer du liquide à l'intérieur du processeur, qui serait donc refroidi un petit peu à l'écart. Et est-ce qu'on n'en profiterait-il pas pour apporter de l'énergie aux puces directement par ce liquide? On fait d'une pierre deux coups.
C'est une bonne idée.
Ce serait trop fabuleux. Comment on fait ça? Eh bien, on utilise de la chimie super, de la superchimie, c'est-à-dire qu'on fait, on a, alors c'est une réaction d'oxydoréduction, donc je pense que tous les étudiants de tous les lycéens de terminale S pourront contrôler ce que je dis. C'est pour ça que j'ai pas intérêt à pas dire de conneries. Donc, quand vous avez une relation d'oxydoréduction, globalement, vous échangez des électrons. Donc, d'un côté, vous avez donc un gain d'électrons lors de l'oxydation. Et cet électron, lors de la réduction, il est restitué. Donc en fait, comme ça, vous transportez des électrons, vous pouvez transporter de l'énergie grâce à une réaction chimique qui se fait donc dans la puce et de l'autre côté. Et donc c'est comme ça que vous pouvez alimenter en électricité un processeur avec du liquide. Et c'est cette analogie en fait avec le vivant qui fait appeler, c'est pour ça qu'IBM appelle ce système un sang électronique. Et ce truc qui est développé pour de vrai, il fonctionne sur un prototype dans un labo, mais ça pourrait d'ici la prochaine décennie aboutir à quelque chose d'assez rigolo, enfin pour le grand public, quoi. Donc, pour
J'arrive à
l'instant,
me demander si un des problèmes qu'il peut y avoir avec ce type de truc, c'est génial parce que sur les photos, les regardez, hein, il y a les seringues et tout, il y a le sopalin en dessous, c'est vraiment l'état de labo.
It's alive!
Mais je me demande si un des problèmes qu'on peut avoir avec ce type d'appareil, c'est pas la constance. Enfin, disons aujourd'hui, quand tu utilises de l'électricité un peu traditionnelle, j'allais dire, pour faire alimenter nos appareils, l'électricité, elle est plutôt constante, quoi, qui est fournie par l'alimentation. Et j'arrive à me demander si jamais c'est pas des fluides qui arrivent, si jamais on n'a pas des problèmes de constance d'énergie, non?
Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes, effectivement. Enfin, il y a beaucoup de trucs à résoudre. Je pense que c'est vraiment pas facile. Mais bon, je pense aussi que on peut réguler les tensions. Enfin, il y a des possibilités de réguler les tensions. Puis, il y a des tas de possibilités. Peut-être utiliser des formes de, je sais pas, de condensateurs pour magasiner de l'électricité, puis la redistribuer de manière plus constante. Je pense que ça, c'est gérable, en fait. C'est gérable. Après, c'est sûr que je pense aussi que ça sera plus difficile d'amener de grosses quantités d'énergie, et donc ce sera réservé à des processeurs qui consomment peu dans un premier temps. Voilà quoi, parce que c'est vrai qu'emmener 130 watts avec du liquide, c'est un peu compliqué, ouais.
On reste sur le liquide, pour l'électronique, puisque le water cooling, c'est l'avenir, Guillaume. On va continuer à parler de cette substance liquide magique qui fait fonctionner nos appareils, mais en tout cas là, qui va les faire refroidir.
Et tous les amateurs de water cooling te le diront, hein, c'est...
Le water cooling, c'est fantastique.
Le water cooling, c'est exactement. Non, mais écoute, c'est pas IBM n'est pas le seul sur le coup. La DARPA, en fait, a un petit peu la même idée. Alors, c'est pas du sang du tout, dans le sens où ça apporte pas d'énergie. Par contre, c'est une forme de water cooling ultra efficace, parce que, tout simplement, au lieu de mettre un radiateur sur, parce que ça se fait déjà au water cooling, hein. Quand je dis que les overclockers le connaissent bien, c'est que n'importe qui peut acheter un kit de water cooling pour son PC. et ses boîtes évidemment, c'est une espèce de gros machin avec une pompe, et au bout vous avez un radiateur que vous collez sur votre processeur, et ça marche très bien. Le problème c'est que c'est gros, c'est encombrant, et du coup pour que ça soit moins gros, moins encombrant, il faudrait que ce soit beaucoup plus efficace. Et pour que ce soit beaucoup plus efficace, au lieu de coller le radiateur sur le dessus du processeur, eh ben, on fait passer le liquide à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a des petits canaux, encore une fois, et dans ces petits canaux, on fait passer le liquide. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup plus efficace. Donc ça a permis pour un FPGA militaire de passer de 60 à 24 degrés Celsius. Donc c'est vraiment pas mal. Et donc comme c'est beaucoup plus efficace, ça permettra d'avoir des dispositifs de water cooling beaucoup moins encombrants, tout simplement parce qu'on a des volumes de liquide qui sont beaucoup moins importants, et du coup ça permettra de démocratiser en quelque sorte, de faciliter l'utilisation des refroidissements par liquide à tout un tas de machines pour lesquelles c'est pas possible. Pas un portable, c'est impossible d'avoir du water cooling par exemple pour le moment. Là on se dit que peut-être en faisant des canaux bien placés, c'est peut-être pas impossible et ce serait pas mal.
Et du coup on se demandait en préparant l'émission quel type de liquide c'était d'ailleurs, et on n'a pas la réponse, mais si vous savez, déposez un petit commentaire.
Ça peut être de l'eau, hein. Parfois c'est de l'huile, parfois c'est de l'eau.
Ah, une espèce d'huile, ouais. Bah, c'est pas de l'azote liquide, hein. Tu me disais que...
Non, du tout. Il y en a qui le font, hein. Pour les PC, ça marche bien. Mais pour les PC, par exemple, on utilise de l'huile ou de l'eau. Bon, là, à mon avis, ils ne sont pas allés chercher très loin, hein. Je ne sais pas, mais...
Il suffit que ce soit liquide et que... Ok. On reste dans les analogies entre... On parlait du sang électronique, on va rester un petit peu dans les analogies, parce que là, il y a carrément le cerveau qui est Internet et qui est ce moteur de recherche qui est Google, qui montre des vraies prouesses. Il y a de l'évolution sur la manière dont les algorithmes se construisent, Guillaume.
C'était un petit peu, enfin, on s'y attendait un peu, quoi, mais ça y est, Google a déployé cette année RankBrain, c'est son surnom. C'est un gros algorithme de machine learning qui est appliqué à la recherche. Donc, c'est une sorte de cerveau artificiel qui permet de raisonner. Alors, quand on dit raisonner comme un humain, c'est beaucoup dire, hein, c'est ce qu'on aime à dire, mais enfin, c'est pas exactement ça. Cela dit, il a des capacités d'analogie, des capacités de raisonnement un petit peu mou, comme ça, en faisant des tu vois, en comprenant à peu près ce que tu veux dire, même quand c'est pas exactement le truc qui a été programmé. C'est cette capacité à être un petit peu souple qui permet à RankBrain d'être particulièrement efficace. Quand Google voit arriver des requêtes qu'il n'a jamais vues.
Ouais.
En général, il les délègue à RankBrain, et RankBrain se démerde plutôt bien, en fait, voire même très très bien, mieux que des humains apparemment, en moyenne, pour traiter ses résultats de recherche. Et il pourrait être sollicité aussi pour comprendre les requêtes en langage naturel qui sont pas forcément tournées d'une manière très stéréotypée, quoi. Donc c'est un début. Bon, c'est un début. Quand je dis que c'est un début, c'est quand même 15% des recherches actuellement sur Google qui sont traitées par le cerveau, là.
C'est énorme.
Et ça représente des millions de requêtes par jour.
Ouais, quand même. Et puis, ouais, ça sera l'avenir. On verra probablement une époque où les algorithmes fonctionneront tout seuls et évolueront même sous,
tout seuls. Alors, tout seul, non. Hein, c'est-à-dire dans le sens où chaque jour, RankBrain est alimenté par des gigas et des gigaoctets de données
qu'il
doit analyser, etc. Mais,
non, quand je disais tout seul, c'était sans intervention humaine.
Ah bah, après, une fois qu'il a appris, c'est bon.
On est d'accord. Et c'est là où ça devient flippant, je trouve, c'est que l'intelligence artificielle devient potentiellement très très intelligente, par définition. Intelligence artificielle qui s'essaie aussi au montage vidéo, d'ailleurs.
Ouais, deux petites news rigolotes pour la fin. Rigolotes, je sais pas, mais bon, pour la fin, les intelligences artificielles peuvent faire du montage vidéo. Alors, comment ça se fait ? Ben, en fait, c'est tout bête. Non, c'est hyper compliqué, mais le truc, c'est que vous avez des séquences vidéo qui sont où il y a des parties chiantes. Alors, ça peut être la caméra de surveillance ou les vacances de votre data. Parce qu'il y a des séquences où il ne se passe pas grand-chose, quoi. Tiens, une fois qu'on a vu le paysage, bon, on a compris, quoi. C'est pas la peine de passer. Bon, y a un algorithme qui a été programmé par Bin Chao, les Chinois, qui est capable d'analyser en temps réel une vidéo et de couper les séquences où il se passe que dalle, pour ne laisser que les séquences d'intérêt.
Les parties chiantes dégagent, ça c'est beau ça.
Les parties chiantes dégagent, exactement. Alors qu'est-ce que c'est qu'une partie chiante ? Ben, c'est une partie répétitive, globalement, c'est une partie où il ne se passe rien de particulier, quoi. C'est-à-dire, par exemple, là, sur l'exemple, c'est la vidéo d'un gamin. qu'on trouve chiant parce que c'est pas notre gamin, mais si c'était notre gamin, faut imaginer, les parties intéressantes, c'est les parties où il change d'activité, tout ça. Bon, à part les parties où il colorie un truc pendant une minute, on s'en fout. On prend les 10 premières secondes et puis c'est bon, quoi. Hein, voilà. Et ben ça, l'algorithme le fait tout seul. Il le détecte et il le fait tout seul. Alors, ça va faire très plaisir à tous ceux qui sont qui ont à se braquer les vidéos de vidéosurveillance, où pendant lesquelles il se passe rien 99,9% du temps, quoi. Donc ça peut avoir des implications quand même intéressantes au-delà de cutter les vidéos de votre tata ou le dernier Hunger Games qui, à mon avis, il restera environ un quart d'heure si jamais on le file à cet algorithme. Mais bon.
Et je pense que du coup, ouais, même regarder un Derrick avec ça, ça peut être sympa. Du coup, tu peux te regarder des saisons entières de Derrick en 2 minutes, quoi.
C'est ça, il reste le générique.
Intelligence artificielle aussi dans le domaine de la météo, monsieur Louis Baudin.
Absolument, mais oui, Gilles Pétret a du souci à se faire. Non, bon, plus maintenant, mais enfin bon, disons que, désolé. Donc, pourquoi j'ai dit ça, je suis désolé, vraiment, c'est pas gentil. Donc, grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé? Un séisme, IBM a racheté, arrête de rigoler.
J'adore. Non, mais je te...
Pardon. Donc oui, bon alors parce que... Donc IBM, c'est le patron de Watson, c'est lui qui a créé Watson, cette espèce de gros cerveau qui est capable de comprendre le langage naturel, qui est capable d'être meilleur que Dr. House en analysant, donc en lisant vraiment la totalité de la littérature médicale qui a été faite jusqu'à ce jour. Donc Watson peut être appliqué un peu à n'importe quoi. Et donc IBM s'arrête pas là, hein. IBM donc racheté Weather Company, donc patron de WSI ou Weather.com, enfin c'est une énorme compagnie en fait qui est spécialisée dans les applis météorologiques et qui voilà quoi, qui distribue la météo à des millions et des millions de personnes chaque jour, quoi. Et donc à quoi ça va servir? Ils veulent intégrer en fait les bases de données de Weather Company à Watson pour croiser un grand nombre de facteurs, pour croiser un grand nombre de données et faire des prédictions en fonction de plusieurs trucs, de plusieurs facteurs, en particulier la météo. Donc c'est inclure la météo dans le processus décisionnel global de Watson, qui sera utilisé vraisemblablement dans la plateforme Internet des objets d'IBM, qui permettra de faire des prévisions plus contextuelles, puisqu'il y a voilà, cette composante supplémentaire. Donc voilà, Watson devient de plus en plus malin, maintenant il utilisera aussi les données météorologiques.
C'est quand même fascinant, les applications de l'informatique et de l'électronique à tous ces domaines-là, et puis les rapprochements, encore une fois, en filigrane dans cet épisode, je trouve, des fonctionnements de l'électronique et des fonctionnements de la nature, assez bluffant. Merci beaucoup, Guillaume, pour tous ces éléments de pédagogie. Je voudrais juste rappeler, avant qu'on se dise au revoir, qu'on a lancé un financement participatif sur Tipeee. Donc si Tech Café est un podcast qui vous plaît et si vous aimeriez le voir grandir, se développer, je vous invite éventuellement à aller jeter un petit coup d'œil à la page Tipeee. C'est Tipeee, il y a trois fois le E, tipeee.com/tech-café. Et puis vous pourrez contribuer à la hauteur à partir de 1 euro par épisode. Et puis ça nous aide, il y a tout d'expliqué sur la page, je ne vais pas refaire les explications. Pour précision, évidemment, ce financement participatif ne prend en compte que les épisodes classiques. Donc typiquement, là, il n'y a pas de prélèvement sur une chronique des composants. Malgré tout, si c'est un des éléments, je sais qu'il y en a qui vous plaît dans le Tech Café, la chronique des composants, allez jeter peut-être un coup d'œil à Tipeee et puis contribuer, même si c'est aux épisodes classiques, vous continuerez à contribuer à nos projets. Merci beaucoup. Guillaume, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part sur Internet?
Mais bien sûr, devant le Halo 5 sur la Xbox One, que les tipeurs m'ont payé.
Et bien sûr, évidemment, parce qu'on fait ça pour s'enrichir. Et puis, on peut aussi, j'imagine, rentrer en contact avec toi dans les commentaires de l'émission. On l'avait déjà dit, mais s'il y a des choses à corriger, des choses à compléter, n'hésitez pas à déposer votre petit commentaire sur techcafé.fr. Moi, c'est Guillaume Vendée. Et puis, bien entendu, on se retrouve tout bientôt pour un épisode classique de Tech Café. À bientôt, tout le monde. Ciao.
Ciao.
Bon. Bon, allez, l'intelligence artificielle, non, rien à voir d'ailleurs. Mon lancement est très mauvais.
Si, c'est un peu ça.
Alors, attends, on va la refaire.